Livre deuxième. Milieu de partie. Oh, l'esprit! L'esprit a des montagnes, des falaises de vertige, immenses, terrifiantes, immesurées par l'homme. Gerard Manley Hopkins.
Chapitre 14. Mélanie. Le déroulement des événements est confus dans mon esprit. Je me rappelle parfaitement les dernières heures que j'ai passées à Charleston, mais j'ai des difficultés à me souvenir des journées et des semaines qui ont suivi. D'autres souvenirs s'imposent à moi. Je me rappelle les yeux vitreux et les cheveux clairsemés du petit garçon grandeur nature dans la nurserie hantée de Grumblethorpe. Comme c'est étrange. J'ai passé si peu de temps là-bas. Je me souviens des enfants qui jouaient et de la petite fille qui chantait dans la lumière hivernale, sur le flanc de la colline au-dessus de la forêt, le jour où l'hélicoptère a heurté le pont. Je me souviens du lit blanc, bien sûr. Cet étrange espace carcéral qui contenait la prison de mon corps. Je me souviens de Nina s'éveillant de son sommeil de mort, de ses lèvres bleues retroussées sur des dents jaunes, de ses yeux bleus flottant dans leurs orbites, au milieu d'une marée de verre, du sang en train de couler à nouveau du minuscule trou percé dans son front pâle. Mais ce n'est pas un véritable souvenir. Je ne le pense pas. Lorsque je tente de me rappeler les heures et les jours qui ont suivi notre dernière réunion à Charleston, je ressens tout d'abord un certain enthousiasme, l'impression d'avoir retrouvé ma jeunesse. Je croyais alors que le pire était passé. Comme j'étais stupide. J'étais libre. Libérée de Willy. Libérée de Nina. Libérée du jeu et de tous les cauchemars qui l'accompagnaient. Je laissais derrière moi le bruit et la confusion de Mansard House et m'enfonçais lentement dans le silence de la nuit. En dépit de toutes les douleurs qui m'avaient été infligées durant la journée, je me sentais plus jeune que jamais. Libre. J'avançais d'un pas léger, savourant l'obscurité et la fraîcheur de l'air nocturne. Les sirènes faisaient retentir leurs mélodies lugubres, mais je ne leur accordais aucune attention. J'étais libre. Je fis halte à un carrefour animé. Le feu passa au rouge, et une longue voiture bleue, une Chrysler, je pense, s'arrêta. Je descendis du trottoir et tapai à la vitre avant droite. Le conducteur, un quadragénaire massif aux cheveux rares, se pencha et me regarda d'un air soupçonneux. Puis il sourit et appuya sur un bouton pour baisser la vitre. « Oui, madame, que puis-je faire pour vous ?» Je hochai la tête et montai. Les sièges en velours artificiel étaient fort moelleux. « Allez-y, » dis-je. Quelques minutes plus tard, nous étions sortis de la ville et roulions sur l'interstate. Je n'ouvrais la bouche que pour donner des instructions à mon chauffeur. En dépit de ma fatigue, je n'avais aucune difficulté à le contrôler. Avec ma jeunesse, j'avais également retrouvé des forces et un pouvoir qui m'avait fait défaut depuis longtemps. Je m'adossais à mon siège et regardais les lumières de Charleston s'enfuir derrière nous. Nous étions à plusieurs kilomètres de la ville lorsque je me rendis compte que le conducteur fumait un cigare. Je déteste le cigare. Il baissa sa vitre et le jeta. Je l'obligeai à régler le chauffage, puis nous continuâmes à rouler en silence vers le nord-ouest. Peu de temps avant minuit, nous passâmes près des marais où s'était écrasé l'avion de Willy. Je fermai les yeux et évoquai Vienne et les jours enfuis. La gaieté des Biergartens, éclairée par des ribambelles d'ampoules jaunes, les promenades nocturnes sur les berges du Danube, l'excitation que nous partagions lorsque nous étions tous les trois réunis, le frisson de nos premiers festins. Durant ces étés où nous retrouvions Willy dans des capitales ou des villes d'eau, j'ai cru que j'allais tomber amoureuse de lui. Seul le souvenir de mon cher Charles m'a empêché de céder à la moindre inclination envers ce séduisant jeune homme qui nous accompagnait dans nos voyages nocturnes. J'ouvris les yeux et scrutai la muraille d'arbres et de buissons qui se dressait à droite de la route. Je pensais au corps mutilé de Willy, gisant quelque part dans la boue, assailli par les reptiles et les insectes. Je ne ressentis rien. Nous nous arrêtâmes à Columbia pour faire le plein, puis nous reprîmes la route. Quand mon chauffeur eut payé le pompiste, J'examinai le contenu de son portefeuille. Il ne contenait que $30, ainsi que l'assortiment habituel de photos de famille et de cartes de crédit. Son nom n'avait aucune importance, et je l'oubliais aussitôt après l'avoir lu sur son permis de conduire. La conduite est presque un réflexe. Je n'avais guère besoin de me concentrer pour maîtriser mon chauffeur. J'allais même jusqu'à m'assoupir quelques instants, alors que nous dépassions Augusta pour pénétrer en Géorgie. Il commençait à s'agiter lorsque je me réveillais, marmonnant et secouant la tête pour chasser la confusion de son esprit. Mais je resserrai mon emprise et il braqua de nouveau ses yeux sur la route. De vagues images de phares blancs et rouges apparurent devant mes yeux lorsque je les refermai. Nous arrivâmes à Atlanta peu après 3 heures du matin. Je n'ai jamais aimé Atlanta. Il manque à cette ville le charme et la grâce qui caractérisent la culture de la côte atlantique, et comme pour montrer le mépris que lui inspire le style sudiste, elle n'a cessé de s'agrandir dans toutes les directions en un étalage de parcs industriels et de lotissements anonymes. Nous sortîmes de l'autoroute, non loin d'un immense stade. Les rues étaient désertes. Suivant mes instructions, mon chauffeur me conduisit devant la banque où je comptais me rendre, mais sa façade obscure ne fit qu'assombrir encore mon humeur. J'avais eu une excellente idée en enfermant les documents relatifs à ma nouvelle identité dans un coffre-fort. Comment aurais-je pu savoir que j'en aurais besoin un dimanche à 3h30 du matin? Je regrettais d'avoir perdu mon sac à main durant la journée. Les poches de mon imperméable mastic étaient pleines des objets que j'avais transférés de mon manteau déchiré. Je vérifiai la présence de ma carte bancaire et de la clé de mon coffre dans mon portefeuille. Elle s'y trouvait bien. Je forçai mon chauffeur à rouler dans les rues avoisinantes, mais me rendis vite compte de la futilité de cette décision. Les feux oranges clignotaient à la plupart des carrefours, traversés de temps en temps par une voiture de police roulant lentement, suivie par les volutes vaporeuses des gaz d'échappement. Il y avait plusieurs hôtels corrects près de ma banque, mais mon aspect échevelé et mon absence de bagages éliminaient toute possibilité d'y trouver un havre pour la nuit. J'ordonnai en silence à mon chauffeur de prendre une voie express conduisant vers la banlieue. Il nous fallut 40 minutes pour trouver un hôtel dont la pancarte « chambre libre » était encore allumée. Sortant de la voie express à un endroit nommé Sandy Springs, nous approchâmes d'un de ces sinistres établissements affublés d'un nom du genre Super 8 ou Motel 6, comme si les gens étaient trop stupides pour se souvenir d'un nom sans qu'un chiffre y soit accolé. J'envisageais d'envoyer mon chauffeur nous faire inscrire sur le registre, mais cela me parut difficile. Il pouvait être obligé de faire la conversation au réceptionniste, et j'étais trop épuisé pour l'utiliser de façon aussi poussée. Je regrettais de n'avoir pas eu le temps de le conditionner proprement, mais c'était comme ça. Finalement, je remis un peu d'ordre dans mes cheveux en m'aidant du rétroviseur et y allai moi-même. La réceptionniste était une jeune femme ensommeillée, vêtue d'un short et d'un t-shirt sale aux couleurs de l'université de Mercer. J'inventai un nom, une adresse et un numéro de plaque minéralogique, mais elle ne prit même pas la peine de jeter un regard en direction de la Chrysler. Comme il est de coutume dans de tels établissements minables, elle exigea d'être payée d'avance. « Une nuit ?» demanda-t-elle. « 2. Mon mari sera absent demain toute la journée. Il est démarcheur pour Coca-Cola et doit visiter leur usine. Quant à moi, j'ai l'intention de $63.85, coupa-t-elle. Il fut un temps où cette somme aurait permis à toute ma famille de séjourner pendant une semaine dans un grand hôtel du Maine. Je payai la femme. Elle me tendit une clé attachée à un petit sapin en plastique. 21-16, faites le tour du bâtiment et garez-vous près des poubelles. Je suivis ses instructions. Le parking était bourré. Il y avait même plusieurs semi-remorques près de la grille. J'allai ouvrir la porte de la chambre, puis revins près de la voiture. Affalé sur le volant, le chauffeur tremblait de tous ses membres. Son front était couvert de sueur et ses bajoues frémissaient tandis qu'il luttait pour se libérer de l'espace réduit où j'avais confiné sa volonté. J'étais épuisé, mais je le contrôlais encore bien. Monsieur Thorne me manquait. Pendant des années, il m'avait été inutile de formuler mes vœux pour les voir réalisés. Il était frustrant d'utiliser cet homme obèse, comme si j'avais dû travailler sur des rebuts après avoir appris à ciseler le métal le plus fin. J'hésitais. Il aurait été avantageux de le conserver près de moi jusqu'à lundi, surtout à cause de son automobile. Mais c'était beaucoup trop risqué. Son absence avait peut-être été déjà remarquée. La police recherchait peut-être déjà sa voiture. Tout cela était important, mais ce qui me décida, ce fut la terrible fatigue qui avait remplacé mon enthousiasme initial. Il fallait que je dorme, que je me rétablisse des blessures et de la tension qui m'avaient été infligées durant cette journée de cauchemar. Exempt de conditionnement, le chauffeur ne resterait sûrement pas passif pendant mon sommeil. Je m'approchai de lui et posai doucement ma main sur sa nuque. « Vous allez retourner sur l'interstate, » murmurai-je. « Faites le tour de la ville. Chaque fois que vous passerez devant une sortie, augmentez votre vitesse de 15 km/h à l'heure. Quand vous arriverez devant la quatrième sortie, fermez les yeux et ne les rouvrez pas tant que je ne vous en aurai pas donné l'ordre. Hochez la tête, si vous avez compris. » L'homme hocha la tête. Ses yeux étaient fixes et vitreux. Il ne m'aurait pas fourni un bon festin, même si j'en avais eu envie. « Allez-y, » dis-je. Je regardais la Chrysler sortir du parking et tourner à gauche en direction de la voie express. Je fermai les yeux et vis le long capot, le blanc des phares des voitures qui venaient en sens inverse, et le rouge des feux arrière de celles que je dépassais à mesure que j'accélérais. J'entendis le bourdonnement du chauffage et sentis la laine du pullover sur mes bras nus. J'avais un goût de cigare dans la bouche. Je frissonnais et retirais en partie ma conscience. Le chauffeur accéléra jusqu'à 100 km/h en passant devant la première sortie. Il était désormais à plusieurs kilomètres de moi, et mes perceptions devenaient plus vagues, se mêlaient au bruit du parking et à la brise qui me caressait le visage. Je ne sentis que vaguement le moment où la voiture atteignit les 145 km/h et où le chauffeur ferma les yeux. La chambre de motel était aussi sinistre et utilitaire que je l'avais imaginée. Mais quelle importance! J'ôtai mon imperméable et ma robe à fleurs déchirées. L'entaille que j'avais du côté gauche n'était qu'une égratignure, mais ma robe et mon jupon étaient fichus. Mon auriculaire me faisait beaucoup plus mal que mon flanc. Je résistais au sommeil assez longtemps pour prendre un bain bien chaud et me laver les cheveux. Ensuite, je m'assis sur le lit, enveloppé dans une paire de serviettes de bain et pleurait. Je n'avais même pas de chemise de nuit ni de sous-vêtements de rechange. Je n'avais pas de brosse à dents. La banque n'ouvrirait pas avant lundi matin, dans plus de 24 heures. Je m'assis et pleurais, me sentant vieille, oubliée, délaissée. Je voulais rentrer chez moi, dormir dans mon lit, et me faire apporter mon café et mes croissants par M. Thorne, comme chaque matin. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Mes sanglots ressemblaient davantage à ceux d'un enfant abandonné qu'à ceux d'une femme de mon âge. Au bout d'un certain temps, toujours enveloppé dans mes serviettes, je m'étendis, ramenai les couvertures sur moi et m'endormis. Je fus réveillé vers midi, quand une femme de ménage tenta d'entrer dans ma chambre. J'allai boire un verre d'eau dans la salle de bain, évitant soigneusement de me regarder dans la glace, puis retournai me coucher. Les rideaux étaient tirés, la chambre était plongée dans l'ombre, le ventilateur ronronnait doucement et je retrouvais le sommeil comme un animal blessé retrouvant l'abri de sa tanière. Je ne me souviens pas d'avoir rêvé. Le soir venu, je me levai, toujours étourdi et souffrant davantage que la veille, et tâchais d'améliorer mon apparence. Je ne pouvais pas faire grand-chose dans ce sens. Ma robe à fleurs était en lambeaux et je devais me débarrasser de mon imperméable dès que possible. J'avais désespérément besoin d'un coiffeur. En dépit de tout cela, ma peau avait un certain éclat. La chair de ma gorge avait retrouvé sa fermeté, et les rides que le temps y avait gravées avaient en grande partie disparu. Je me sentais plus jeune. En dépit de l'horreur que j'avais vécue la veille, le festin m'avait fait du bien. Il y avait un restaurant à l'autre bout de l'immense parking. C'était un lieu inhumain. Éclairage aussi intense que celui d'une salle d'opération, nappe en toile cirée à carreaux rouges et blancs portant encore les traces humides de l'éponge crasseuse du garçon, énorme menu en plastique arborant les photographies en couleur des « spécialités de la maison ». Je supposais que ces photographies étaient destinées aux clients illettrés, incapables de déchiffrer la prose ampoulée vantant les « frites croustillantes à souhait » et les traditionnels plats sudistes à base de maïs. Un délice, préparé à la façon de grand-maman. Le menu regorgeait de notes et de commentaires dithyrambiques. Un encadré expliquait en détail les spécialités sudistes et encourageait le touriste yankee à les goûter. Comme il était étrange, songeais-je, que le régime fade d'un peuple trop pauvre ou trop ignorant pour bien se nourrir soit devenu la cuisine typique de la nouvelle génération. Je commandais du thé et des gâteaux que j'attendis pendant une demi-heure, agacé par les chamailleries et les bruits de mandibules de la famille nordiste installée à la table voisine. Pour la énième fois, je songeais que la santé mentale de cette nation ferait de grands progrès si la loi exigeait que les enfants et les adultes mangent dans des établissements distincts. Il faisait noir lorsque je regagnais le motel. Faute d'avoir mieux à faire, j'allumais la télévision. Plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais cessé de la regarder, mais pas grand-chose n'avait changé. Une des chaînes diffusait ce pugilat stupide qu'on appelle le football. La chaîne éducative se proposait de m'apprendre tout ce que je souhaitais savoir sur l'esthétique du sumo. Au troisième essai, je tombais sur un téléfilm sans cesse entrecoupé de pauses publicitaires, dont le héros, un jeune travailleur social, consacrait son énergie à sauver l'héroïne d'un réseau de prostitution enfantine. Ce programme débile me rappela les crapuleuses histoires policières à 3 sous si populaires durant ma jeunesse. En décriant les outrances des comportements tabous à l'époque, c'était l'amour libre aujourd'hui. Je crois bien que les médias s'en prennent à la pédophilie. On permet aux lecteurs ou aux spectateurs de se vautrer dans les détails les plus excitants. Au 4e essai, je trouvais le journal local. La présentatrice, une jeune femme de couleur, ne cessa pas un instant de sourire tandis qu'elle lisait le reportage sur ce qu'on avait baptisé les meurtres de Charleston. La police cherchait à la fois des suspects et des mobiles. Les témoins avaient décrit le carnage survenu dans un hôtel bien connu de Charleston. La brigade criminelle et le FBI étaient à la recherche de Mrs. Fuller, citoyenne de longue date de Charleston et employeur de l'une des victimes. Il n'existait aucune photographie de cette dame. Le reportage dura à peine 45 secondes. J'éteignis le poste, puis la lumière, et m'étendis dans l'obscurité frissonnante. Dans moins de 48 heures, me dis-je, je serai bien au chaud et bien à l'abri dans ma villa du midi de la France. Je fermais les yeux et essayais de visualiser les petites fleurs blanches qui poussaient entre les dalles de l'allée conduisant au puits. L'espace d'une seconde, je parvins presque à sentir la fraîcheur salée que le vent du sud amène de la mer en été. Je pensais aux toits du village voisin, aux trapèzes de leurs tuiles rouges et orangées visibles derrière les rectangles verts des vergers de la vallée. Mais à ces images agréables, se superposa la dernière vision que j'avais eue de Nina. Ses yeux bleus, agrandis par la surprise, sa bouche légèrement entrouverte, le trou dans son front, pas plus effrayant qu'une tache qu'elle ne tarderait pas à effacer d'un geste gracieux de ses longs doigts manucurés. Puis alors que je me mettais à rêver à l'approche du sommeil, le sang perla et se mit à couler non seulement de sa blessure, mais aussi de sa bouche, de son nez et de ses yeux accusateurs. Je remontais les couvertures sous mon menton et m'efforçais de ne penser à rien. Il me fallait absolument un sac à main. Même si je devais prendre un taxi pour aller à la banque, il ne me resterait pas assez d'argent pour en acheter un. D'autre part, je ne pouvais pas aller à la banque sans sac à main. Je passais en revue le contenu de mon portefeuille, mais même en comptant la petite monnaie, je n'aurais pas assez. Alors que je réfléchissais ainsi dans ma chambre, le taxi que j'avais appelé klaxonna avec impatience dans le parking. Je résolus mon problème en demandant au chauffeur de s'arrêter en chemin devant un magasin de soldes permanente. Pour la somme de 7 $, je me procurais un fourre-tout en paille parfaitement atroce. La course, y compris le temps que j'avais consacré à l'achat de mon trésor, me coûta un peu plus de 13 $. Je donnais 1 $ de pourboire au chauffeur et gardais mon dernier dollar pour d'éventuels menus frais. je devais offrir un spectacle pittoresque debout sur le trottoir, à attendre l'ouverture de la banque. Mes cheveux ne ressemblaient plus à rien. Je n'étais pas maquillée. Mon imperméable, qui sentait encore la poudre, était boutonné jusqu'en haut. Je serrais dans ma main droite mon sac en paille flambant neuf. Il ne me manquait plus que des tennis aux pieds pour ressembler à ces clochardes qui pullulent dans les rues des grandes villes. Puis, je me rendis compte que je portais toujours mes souliers à talons plats qui ressemblaient vaguement à des tennis. Si incroyable que cela parut, le directeur adjoint me reconnut et sembla enchanté de me voir. « Ah, Mrs. Throne !» dit-il alors que je m'approchais de son guichet d'un pas hésitant. « Quel plaisir de vous revoir !» J'étais stupéfaite. Il y avait près de 2 ans que je n'avais pas remis les pieds dans cette banque. Mon compte n'était pas garni au point de me valoir une telle considération de la part d'un directeur adjoint. Durant quelques secondes de panique, j'ai pensé que la police était déjà passée ici et qu'elle m'avait tendu un piège. J'étais en train de dévisager employés et clients, essayant de reconnaître les policiers en civil infiltrés parmi eux, lorsque je remarquai l'attitude détendue et le sourire satisfait du directeur adjoint. Je poussai un long soupir. J'avais affaire à un homme qui se targuait de pouvoir retenir le nom de ses clients, rien de plus. « Cela fait bien longtemps, » dit-il d'un air affable, tout en jetant un bref coup d'œil à ma vêture. « 2 ans. Votre mari va bien ?»« Mon mari. » J'essayais désespérément de me rappeler quelle fable je lui avais racontée lors de mes précédentes visites. Je n'avais mentionné aucun... Soudain, je me rendis compte qu'il parlait du gentleman chauve, élancé et silencieux, qui m'avait accompagné chaque fois que j'étais venu ici. « Ah ! Vous voulez dire Monsieur Thorne ?»« Mon secrétaire. Monsieur Thorne n'est plus à mon service. J'en ai peur. »« Quant à Monsieur Strone, il est mort d'un cancer en 1956. »« Oh !» fit le directeur adjoint, dont le visage rougeau s'empourprint un peu plus. « Excusez-moi. » Je hochai la tête et nous observâmes quelques secondes de silence en hommage au mythique Monsieur Strone. « Eh bien, que pouvons-nous faire pour vous, Monsieur Strone ? Un dépôt, j'espère. » « Un retrait, j'en ai peur. Mais d'abord, j'aimerais voir mon coffre. » Je produisis la carte appropriée, veillant à ne pas la confondre avec la douzaine d'autres cartes bancaires rangées dans mon portefeuille. Nous accomplîmes ensemble le rituel solennel de l'ouverture des portes. Puis, je me retrouvai seul dans un lieu guère plus grand qu'un confessionnal et soulevai alors le couvercle dissimulant ma nouvelle vie. Le passeport était vieux de 4 ans, mais encore valide. C'était un passeport émis durant l'année du bicentenaire, imprimé sur un papier aux filigranes rouge et bleu. Le gentleman qui me l'avait donné au bureau de poste d'Atlanta m'avait dit qu'il vaudrait beaucoup d'argent dans quelques années. L'argent. 12 000 $ en diverses devises, était encore valide, lui aussi. Et lourd. Je rangeai les liasses de billets dans mon fourre-tout et priai pour que la paille bon marché ne se casse pas. Les titres et actions émis au nom de Mrs. Throne n'allaient pas me servir à grand-chose dans les circonstances présentes, mais ils dissimuleraient l'état de billets dans le sac. Je ne m'encombrais pas des clés de la Ford Granada. Je n'avais aucune envie d'accomplir les formalités nécessaires pour sortir la voiture de son garage, et il serait dangereux pour moi qu'on la retrouve au parking de l'aéroport. Le dernier objet qui se trouvait dans la boîte était le petit Beretta, destiné à M. Thorne en cas de besoin. Mais je n'en aurais pas besoin là où j'allais. Là où je comptais aller. Après avoir rangé la boîte avec la même solennité funèbre que lors du précédent rituel, je fis la queue devant la caisse. « Vous voulez vos 10 000 $ aujourd'hui ?» demanda la fille qui mâchait son chewing-gum derrière les barreaux. « Oui, comme indiqué sur le bon de retrait. Ça veut dire que vous allez clore votre compte chez nous ?»« Oui, en effet. » Étonnant comme des années de formation professionnelle peuvent produire de tels exemples d'efficacité. La fille jeta un regard vers le directeur adjoint, assis les doigts croisés sur le ventre comme un parent éploré. Il lui adressa un bref hochement de tête et elle s'acharna de plus belle sur son chewing-gum. « Bien, madame, sous quelle forme souhaitez-vous recevoir votre argent ?» Je fus tenté de lui répondre « En centavos péruviens. » « En chèque de voyage, s'il vous plaît. » Je souris. « 1 000 $ en chèque de 50, 1 000 $ en chèque de 100, et le reste en chèque de 500. Il y aura des frais pour cela, dit l'employé en se renfrognant légèrement, comme si cette perspective était de nature à me faire changer d'avis. Ce n'est pas grave, ma chère. La journée était encore jeune. Je me sentais jeune. Il ferait frais dans le midi, mais la lumière serait comme du beurre fondu. Prenez votre temps, ma chère. Rien ne presse. Le Sheraton d'Atlanta n'était qu'à deux pâtés de maison de la banque. J'y pris une chambre. Comme on me demandait une empreinte de ma carte de crédit, je payai avec un chèque de voyage de 500 dollars et rangeai la monnaie dans mon portefeuille. La chambre était un peu moins plébéienne que celle du motel numéroté, mais tout aussi nue. Je décrochai le téléphone et appelai une agence de voyage. Après avoir consulté son ordinateur, la jeune femme qui m'avait répondu me donna le choix entre décoller d'Atlanta à 6 heures sur un vol de la TWA qui ferait escale à Heathrow pendant 40 minutes avant de continuer sur Paris ou prendre un vol direct de la Paname à 10 heures du soir. Dans les deux cas, la correspondance était assurée avec l'avion à destination de Marseille décollant en fin d'après-midi. Elle me recommanda la seconde option car elle était moins coûteuse. Je choisis la première option et la première classe. Il y avait 3 magasins de vêtements respectables à faible distance de l'hôtel. Je les appelais tous les 3 et me décidai pour celui qui rechignait le moins à l'idée de livrer des articles à l'hôtel de leur cliente. Puis, j'appelai un taxi et partis faire mes achats. Je jetai mon dévolu sur 8 robes signées Albert Nippon, 4 jupes, dont une adorable jupe en laine verte signée Pierre Cardin, un ensemble complet de bagages en cuir fauve de chez Gucci, 2 tailleurs Evan Picon, dont l'un m'aurait paru convenir à une femme beaucoup plus jeune que moi quelques jours plus tôt. Une quantité adéquate de sous-vêtements, 2 sacs à main, 3 chemises de nuit, une robe de chambre bleue très confortable, 5 paires de chaussures, dont une paire de souliers noirs à talons hauts signés Bailly, une demi-douzaine de pullovers en laine, 2 chapeaux, dont un large chapeau de paille assez bien assorti à mon fourre-tout à 7 $, une douzaine de chemisiers, des accessoires de toilette, un flacon de parfum Jean Patou qui prétendait être le parfum le plus cher du monde, ce qui était fort possible. Un radio-réveil à affichage numérique et calculette incorporée qui ne me coûta que 19 $, une trousse de maquillage, des bas nylons, pas ces horribles collants, mais d'authentiques bas nylons, une demi-douzaine de best-sellers au rayon librairie, un guide Michelin de la France, un portefeuille plus gros, divers chocolats et gâteaux anglais et une petite malle en métal. Puis, pendant que l'employé cherchait un manutentionnaire pour livrer mon butin à mon hôtel, je me rendis dans un salon Élisabeth Arden pour une orgie de soins de beauté. Plus tard, rafraîchie, détendue, toute picotante, vêtue d'une jupe confortable et d'un chemisier blanc, je retournai au Sheraton. Je commandai un déjeuner, café, sandwich au roast beef et à la moutarde de Dijon, pommes de terre en salade, glace à la vanille, et donnai 5 $ de pourboire au groom qui me l'apporta. Il y avait un journal télévisé à midi, mais on n'y fit aucune mention des événements survenus samedi à Charleston. Je pris un long bain chaud. Je mis de côté un tailleur bleu marine pour le voyage. Puis, vêtu d'un simple jupon, je commençai à faire mes bagages. Je rangeai dans le sac de voyage un tailleur de rechange, une chemise de nuit, ma trousse de toilette, des sandwichs, 2 livres et la majorité de mon argent liquide. Je dus me faire monter des ciseaux pour ôter les étiquettes de mes achats. À 2 heures, j'en avais fini. Ma malle n'était qu'à moitié pleine et je fus obligée d'en caler le contenu à l'aide d'une couverture trouvée dans le placard. Et je m'étendis pour faire la sieste en attendant 4 h 15, heure à laquelle une limousine devait me conduire à l'aéroport. Comme il était agréable de regarder les chiffres noirs défiler doucement sur le cadran d'affichage gris de mon radio-réveil tout neuf. Je n'avais aucune idée de la façon dont fonctionnait ce gadget. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans cette fin de XXe siècle, mais ça n'a pas d'importance. Je m'endormis, le sourire aux lèvres. L'aéroport d'Atlanta ressemble à tous les grands aéroports que j'ai fréquentés, et j'en ai fréquenté beaucoup. Je regrette les grandes gares des décennies passées. La dignité marbrée et ensoleillée de Grand Central à son apogée, la majesté aérée de la gare Terminus de Berlin avant la guerre, et même la débauche architecturale et le chaos populeux de Victoria Station à Bombay. L'aéroport d'Atlanta est le symbole même du voyage dépourvu de classe. Interminables corridors carrelés, sièges en plastique moulé, rangées de moniteurs vidéo affichant en silence les horaires d'arrivée et de départ, les couloirs étaient peuplés d'hommes d'affaires pressés et de familles bruyantes et suantes en guenilles pastel. Ça n'avait aucune importance. Dans 20 minutes, je serais libre. J'avais fait enregistrer tous mes bagages, excepté mon sac de voyage et mon sac à main. Un employé de la compagnie aérienne m'avait poussé le long des couloirs sur une petite chaise roulante électrique. En fait, mon arthrite me faisait mal, et mes jambes souffraient encore de mes efforts de samedi. Je présentais mon billet dans la zone de départ, vérifiais qu'il était bien interdit de fumer dans la partie de l'appareil où se trouvait ma place de première, puis allais m'asseoir en attendant l'embarquement, prévu dans une 20aine de minutes. « Miss Fuller !»« Mélanie Fuller !»« Veuillez décrocher le téléphone blanc le plus proche, s'il vous plaît. » Je me raidis sur mon siège. Le haut-parleur n'avait cessé de jacasser depuis mon arrivée, appelant passagers et employés, menaçant les voitures mal garées de contraventions et d'enlèvements, déclinant toute responsabilité pour les fanatiques religieux qui infestaient le terminal, comme une meute de chacals bardés de tracts. C'était sûrement une erreur. Si on avait vraiment appelé mon nom, je l'aurais entendu plus tôt. Je me redressais, respirant à grand-peine, écoutant la voix asexuée réciter sa litanie de nom propre. Je me détendis en entendant prononcer celui d'une Miss Renée Fowler. C'était une erreur bien naturelle. Cela faisait des jours, des semaines que mes nerfs étaient à vif. Je n'avais cessé de penser à la réunion depuis l'automne. « Miss Fuller, Mélanie Fuller, veuillez décrocher le téléphone blanc le plus proche, s'il vous plaît. » Mon cœur cessa de battre une seconde. Je sentis les muscles de ma poitrine se contracter douloureusement. C'est une erreur. Mon nom est fort répandu. Je suis sûre que j'ai mal entendu cet appel. « Mrs. Throne, Béatrice Throne, veuillez décrocher le téléphone blanc le plus proche. S'il vous plaît, Mr. Bergstrom, Harold Bergstrom. » L'espace d'un instant, je fus persuadée, à en avoir la nausée, que j'allais m'évanouir ici, dans la salle des départs internationaux de la Trans World Airlines. Je baissai la tête tandis que la pièce bleue et rouge vacillait devant moi et qu'une myriade de points lumineux dansaient à la lisière de mon champ de vision. Puis je me levai, serrant contre moi sac à main, fourre-tout et sac de voyage. Un homme vêtu d'un blazer bleu auquel était accroché un badge passa devant moi et je lui agrippai le bras. « Où est-il ? » Il me regarda sans comprendre. « Le téléphone blanc, » sifflai-je. « Où est-il ? » Il me désigna un mur tout proche. Je m'approchai de l'appareil comme s'il s'agissait d'une vipère. Durant une minute, une éternité, il me fut impossible de le saisir. Puis je posai mon sac de voyage par terre, décrochai le combiné et murmurai mon nouveau nom dans le microphone. Une voix étrange me répondit « Mrs. Throne, un instant, s'il vous plaît. Il y a un appel pour vous. » Je restais immobile pendant que les connexions se mettaient en place avec des bruits caverneux. Lorsque la voix se fit entendre, elle était également caverneuse, vide, à croire qu'elle émanait d'un tunnel ou d'une pièce vide, ou d'une tombe. Je connaissais bien cette voix. « Mélanie ? Mélanie, ma chérie, ici Nina. Mélanie ? Ma chérie, ici Nina. » Je lâchai le combiné et reculai. Le vacarme qui m'entourait s'estompa jusqu'à devenir un bourdonnement lointain et abstrait. Il me semblait que je voyais des silhouettes minuscules s'agiter au bout d'un tunnel infiniment long. Prise de panique, je fis volte-face et m'enfuis dans le corridor, oubliant mon sac de voyage, oubliant l'argent qu'il contenait, oubliant mon avion, oubliant tout ce qui n'était pas la voix morte qui résonnait à mes oreilles comme un cri dans la nuit. Alors que je m'approchais des portes du terminal, un ouvrier d'entretien se précipita vers moi. Je ne pris pas le temps de réfléchir. Je jetai un regard au noir qui courait dans ma direction et il s'effondra sur le sol. Je ne crois pas avoir jamais utilisé un sujet aussi vite ni aussi brutalement. Il entra en convulsion, se tapant à plusieurs reprises la tête contre les carreaux. Je me glissais entre les portes automatiques pendant que les passants se précipitaient vers l'employé en pleine crise. Je m'immobilisais au bord de la chaussée et tentais sans succès de dominer le tourbillon de panique qui menaçait de m'engloutir. Chaque visage s'approchant de moi menaçait de devenir le masque mortuaire, blafard et souriant que je m'attendais vaguement à voir. Je tournais sur moi-même, serrant contre ma poitrine mon sac à main et mon fourre-tout, vieille femme pathétique au bord de l'hystérie. « Mélanie, ma chérie, ici Nina. »«
Taxi, madame ?»
Je me tournai vivement vers celui qui m'avait posé cette question. Un taxi vert et blanc s'était immobilisé près de moi sans que je le remarque. D'autres taxis attendaient derrière lui sur la voie qui leur était réservée. Le chauffeur était blanc, âgé d'une trentaine d'années, bien rasé, mais pourvu d'une peau translucide où perçait déjà la barbe du lendemain.
« Vous voulez un taxi ?»
Je hochai la tête et m'escrimai sur la portière. Le chauffeur se pencha en arrière et la déverrouilla. L'intérieur de la voiture sentait la fumée refroidie, la sueur et le vinyle. Je jetai un regard par la lunette arrière alors que nous nous engagions sur la courbe de sortie. Des rectangles de lumière verte balayaient la vitre du taxi. Impossible de dire si une voiture nous suivait. Il y avait une circulation folle.
« J'ai dit où on va !»
hurla le chauffeur. Je sciai. Mon esprit était vide.
« En ville ? À l'hôtel ?»
Oui. J'avais l'impression de parler dans une autre langue que lui.
« Lequel ?»
Une douleur atroce éclata derrière mon œil gauche. Je la sentis couler de mon crâne jusqu'à mon cou, puis se répandre dans mon corps comme une flamme liquide. Il me fut impossible de respirer pendant une seconde. Je restais immobile, serrant mon sac à main et mon fourre-tout, attendant que la douleur s'estompe.
« Ou quoi ?»
demanda le chauffeur. « Pardon ?» Ma voix était aussi râpeuse que le bruissement du vent dans des tiges de maïs desséchées.
« Je prends la voie express ou quoi ?»«
Sheraton. » Ce mot n'était pour moi qu'une suite de syllabes dépourvues de sens. La douleur commença à se dissiper, laissant derrière elle un écho de nausée.
« En ville ou près de l'aéroport ?»«
En ville. » Dis-je sans comprendre de quoi nous discutions.
« Ok. »
Je m'adossais au siège de vinyle froid. Des raies de lumière traversaient l'intérieur du taxi avec une régularité hypnotique et je me concentrais sur mon souffle afin d'en ralentir le rythme. Le bruit des pneus sur le bitume mouillé pénétra le bourdonnement qui avait envahi mes oreilles. « Mélanie, ma chérie, votre nom ?» murmurai-je.
« Hein ?»«
Votre nom, exigeai-je. »«
Steve Lanton, c'est indiqué sur la carte, pourquoi ?»«
Où habitez-vous ?»«
Pourquoi ?»
Il commençait à m'horripiler, celui-là. Je poussais. En dépit de ma migraine, en dépit des tourbillons de nausées, je poussais. L'impact fut si fort qu'il s'effondra sur son volant pendant quelques secondes. Puis je lui permis de se redresser et de consacrer de nouveau son attention à la route.
« Où habitez-vous ? »
Une image. Celle d'une jeune femme aux cheveux blonds et raides devant un garage.
« Parlez. »
« Bella Hates. » La voix du chauffeur était dépourvue de timbre.
« Est-ce loin d'ici ? » ?»«
Un quart d'heure. »
« Est-ce que vous vivez seule ?»
Tristesse. Chagrin. Jalousie. Image pénible de la blonde tenant dans ses bras un enfant morveux. Voix dont le ton monte, colère. Une robe rouge qui s'éloigne le long de l'allée. Dernière vision du break dans lequel elle s'est engouffrée. Apitoiement. Parole d'une chanson de country music aux accents de vérité.
« Nous allons là-bas, » dis-je.
« Oui, je crois l'avoir dit. » Je fermais les yeux et écoutais le bruit des pneus sur le bitume mouillé. La maison du chauffeur n'était pas éclairée. Elle ne différait en rien des autres bicoques du lotissement où nous venions d'entrer. Façade en stuc, fenêtre panoramique, donnant sur un minuscule jardin rectangulaire, garage aussi grand que le reste de la maison. Personne ne nous remarqua à notre arrivée. Le chauffeur ouvrit la porte du garage et y fit entrer son taxi. Il s'y trouvait une autre voiture, une Buick d'un modèle récent, noire ou bleu marine. Je n'aurais su le dire tant la lumière était faible. Je forçai le chauffeur à sortir la Buick dans l'allée, puis le fit revenir. Nous laissâmes le moteur du taxi allumé. Le chauffeur rabaissa la porte du garage. « Faites-moi visiter la maison, » dis-je à voix basse. Elle était aussi prévisible que déprimante. Des assiettes sales s'empilaient dans l'évier, chaussettes et sous-vêtements traînaient par terre dans la chambre, il y avait des journaux partout et des portraits bon marché d'enfants aux yeux candides contemplaient le désordre. « Où sont vos armes ?» demandai-je. Je n'avais pas besoin de sonder son esprit pour savoir qu'il en possédait. Nous étions dans le sud après tout. Le chauffeur cligna des yeux et me conduisit au sous-sol, dans un atelier chichement éclairé. Des calendriers périmés exhibaient leurs femmes nues sur les murs en parpaing. Le chauffeur me désigna une armoire métallique où étaient rangés un fusil à pompe, un fusil de chasse et deux pistolets. Ces derniers étaient enveloppés dans des chiffons graisseux. Le premier était un pistolet de tir à canon long, de petit calibre et ne tirant qu'un coup. Le second était un revolver qui m'était plus familier, un calibre 38, me rappelant un peu celui que m'avait laissé Charles. Je le mis dans mon fourre-tout, ainsi que trois boîtes de cartouches, et nous remontâmes dans la cuisine. Il me donna les clés de la Buick et nous nous assîmes tous les deux pendant que je composais la note qu'il allait écrire. Elle n'était guère originale. Solitude, remords, mal de vivre. Les autorités remarqueraient peut-être l'absence du revolver et se mettraient certainement à la recherche de l'automobile, mais l'authenticité de la note et de la méthode choisie dissiperait probablement les soupçons. Du moins, l'espérais-je. Le chauffeur retourna dans son taxi. La porte donnant sur le garage ne resta ouverte que quelques secondes, mais les gaz d'échappement me piquèrent les yeux. Le bruit du moteur me sembla horriblement fort. Lorsque je vis le chauffeur pour la dernière fois, il était assis sur son siège, les mains posées sur le volant, les yeux fixés sur l'horizon de quelque autoroute invisible. Je refermai la porte. J'aurais dû partir tout de suite, mais il fallait que je m'assoie un peu. Mes mains tremblaient, des spasmes contractaient ma jambe droite, et l'arthrite me poignardait la hanche. Je m'accrochais à la table en formica et fermais les yeux. « Mélanie, ma chérie, ici Nina. » Impossible de se méprendre sur cette voix. Où Nina était encore à mes trousses où j'avais perdu l'esprit. Le trou de son front était de la taille d'une pièce de monnaie et parfaitement rond. Il n'y avait pas de sang. Je fouillais les placards en quête de vin ou de cognac. Je ne trouvais qu'une bouteille de Jack Daniels à moitié vide. Je dénichais un verre propre et bu. Le bourbon me brûla la gorge et l'estomac, mais mes mains avaient cessé de trembler lorsque je nettoyais le verre avant de le ranger. J'envisageais pendant quelques secondes de retourner à l'aéroport, mais j'eus vite fait d'écarter cette idée. Mes bagages étaient déjà en route pour Paris. Je pourrais les rattraper en prenant le vol de la Paname, mais la seule idée de monter à bord d'un avion me donnait des frissons. Détendu, Willy se tourne vers l'un de ses compagnons. Puis c'est l'explosion, les hurlements, la longue chute vers l'oubli et les ténèbres. Non, je ne prendrai plus l'avion de sitôt. Le bruit du moteur me parvint à travers la porte. Un bourdonnement monotone et insistant. Plus d'une demi-heure avait passé, il était temps que je m'en aille. Je m'assurai que la rue était déserte et refermai la porte de la maison derrière moi. Le déclic de la serrure prenait tout à coup une résonance définitive. J'entendis à peine le moteur du taxi gronder derrière la porte du garage lorsque je me glissais au volant de la Buick. Il y eut quelques secondes de panique pendant lesquelles je n'arrivais pas à trouver la clé de contact. Puis, je recommençai mes recherches en prenant tout mon temps et le moteur démarra tout de suite. Il me fallut une minute supplémentaire pour ajuster le siège et le rétroviseur et allumer les phares. Cela faisait plusieurs années que je n'avais pas conduit une voiture, par moi-même, je veux dire. Je sortis de l'allée en marche arrière et roulais lentement le long des rues tortueuses du lotissement. Je me rendis alors compte que je n'avais aucune destination de rechange, aucun plan de secours. Je n'avais pensé qu'à ma villa des environs de Toulon et à la nouvelle identité qui m'y attendait. Celle de Béatrice Trône ne devait être que temporaire, un pseudonyme à endosser le temps d'un voyage. Je sursautai en me rappelant que mes 12 000 dollars en liquide se trouvait dans le sac de voyage que j'avais abandonné près du téléphone, à l'aéroport. Il me restait encore plus de 9 000 $ en chèque de voyage dans mon sac à main et dans mon fourre-tout, ainsi que mon passeport et d'autres papiers. Mais je ne possédais, en tout et pour tout, que le tailleur bleu dont j'étais vêtu. Ma gorge se serra lorsque je pensais au merveilleux achat que j'avais fait le matin. Je sentis les larmes perler à mes yeux, mais je secouai la tête et démarrai lorsque le feu passa au vert, encouragé par le crétin qui klaxonnait impatiemment derrière moi. Je réussis sans trop savoir comment à trouver la bretelle d'accès à l'interstate et pris la direction du nord. J'hésitais en apercevant un panneau vert indiquant la sortie de l'aéroport. Mon sac de voyage se trouvait peut-être encore près du téléphone. Il me serait facile d'embarquer à bord d'un autre avion. Je n'en continuais pas moins ma route. Rien n'aurait pu me convaincre de poser le pied dans ce mausolée bien éclairé où m'attendait la voix de Nina. Nouveau frisson lorsqu'apparut soudain dans mon esprit l'image de la salle de départ de la TWA où je m'étais trouvé 2 heures plus tôt, une éternité plus tôt. Nina était là, assise dans un fauteuil, toujours vêtue de la robe rose qu'elle portait lors de notre dernière rencontre, les mains croisées au-dessus du sac à main posé sur son giron, les yeux bleus, le front percé d'un trou de la taille d'une pièce de monnaie, un large sourire aux lèvres. Ses dents avaient été taillées en pointe. Elle allait monter à bord de l'avion. Elle n'attendait que moi. Jetant de fréquents regards dans le rétroviseur, je changeai de fil, ralentis, et sortis de l'autoroute, la regagnant aussitôt. J'accomplis cette manœuvre à 2 reprises. Il me fut impossible de savoir si j'étais suivi, mais je ne le pensais pas. La lueur des phares me brûlait les yeux. Mes mains recommencèrent à trembler. Je baissai un peu la vitre et laissai un filet d'air froid me caresser la joue. Je regrettais de ne pas avoir emporté la bouteille de bourbon. Un panneau annonça « I-85 Nord, Charlotte, NC ». Je haïssais le Nord, la sécheresse des Yankees, la grisaille des villes, la froideur de l'air et les jours sans soleil. Toutes les personnes qui me connaissaient savaient que je détestais les États nordistes, en particulier en hiver, et que je ferais tout mon possible pour les éviter. Je suivis les voitures qui obliquaient vers la sortie. Les lettres réfléchissantes d'un panneau aérien m'indiquèrent « Charlotte, NC, 360 km. Durham, NC, 505 km. Richmond, VA, 810 km. Washington, DC, 975 km. Agrippant le volant de toutes mes forces, tentant de suivre la vitesse folle de la circulation, je m'enfonçais dans la nuit en direction du nord.
« Hé, madame !»
Je me réveillai en sursaut et fixai l'apparition immobilisée à quelques centimètres de mon visage. Un soleil éclatant illuminait de longues mèches de cheveux raides qui recouvraient à moitié une figure de rongeur. Petits yeux fuyants, long nez, peau crasseuse et minces lèvres gercées. L'apparition eut un sourire forcé, me laissant entrevoir des dents jaunes et acérées. Une incisive était cassée. L'adolescent n'avait pas plus de 17 ans.
« Hé, madame, vous allez dans ma direction ?»
Je me redressai et secouai la tête. Le soleil était déjà haut dans le ciel et il faisait chaud dans l'habitacle hermétiquement fermé. Je jetai un regard circulaire sur l'intérieur de la buick et me demandai pourquoi j'avais dormi dans une voiture et non dans mon lit. Puis, je me souvins de mon interminable voyage nocturne et de la terrible fatigue dont le poids m'avait obligé à faire halte dans une aire de repos déserte. Quelle distance avais-je parcouru? Je me rappelais vaguement avoir vu la sortie de Greensboro, Caroline du Nord, avant de m'arrêter.
« Madame !»
La créature tapota la vitre d'un doigt incrusté de crasse. J'appuyai sur le bouton pour abaisser la vitre, mais rien ne se passa. Je faillis succomber à la claustrophobie avant de penser à tourner la clé de contact. Tout fonctionnait à l'électricité dans ce véhicule insensé. Je remarquai que la jauge d'essence indiquait un réservoir presque plein. Je me rappelais m'être arrêté durant la nuit, écartant plusieurs stations avant d'en trouver une qui ne fonctionnait pas uniquement en self-service. En dépit des circonstances, je n'allais pas m'abaisser à manipuler moi-même une pompe à essence. La vitre coulissa à l'intérieur de la portière dans un petit bourdonnement.
Vous acceptez les autostoppeurs, madame ?
La voix nasale du garçon était aussi répugnante que son aspect. Il était vêtu d'un blouson kaki très sale et n'avait pour tout bagage qu'un sac à dos et un duvet. Derrière lui, le soleil se reflétait sur le pare-brise des voitures qui fonçaient sur l'interstate. J'eus soudain la sensation exaltante de faire l'école buissonnière. Le garçon renifla et s'essuya le nez avec la manche de son blouson.
« Où allez-vous ? » demandai-je.
« Vers le nord ? » dit le garçon en haussant les épaules. Je ne cesse d'être étonné par le fait que nous ayons élevé toute une génération incapable de répondre à la question la plus simple.
« Vos parents savent-ils que vous faites de l'autostop ?»
Il haussa de nouveau les épaules, ou plutôt une épaule, comme si hausser les deux lui avait demandé trop d'énergie. Je sus immédiatement que ce garçon était très certainement un fugueur, probablement un voleur, et sans doute un danger pour toute personne assez stupide pour le prendre à bord de sa voiture.
« Montez !»
dis-je, et j'appuyai sur le bouton qui ouvrait la portière côté passager. Nous fîmes halte à Durham pour y prendre un petit déjeuner. Le garçon fronça les sourcils en contemplant les photographies reproduites sur le menu, puis me regarda en plissant les yeux.
« Je peux pas. Je veux dire, j'ai pas d'argent pour me payer un repas. Enfin, j'en ai assez pour arriver jusque chez mon oncle, mais ce n'est pas grave. Je vous invite. »
Nous étions censés croire qu'il se rendait chez son oncle à Washington. Lorsque je lui avais redemandé où il allait, il m'avait gratifié de son regard de fouine et avait dit
« Et vous, où allez-vous ? »
J'avais laissé supposer que ma destination était Washington, et il m'avait offert un nouvel aperçu de ses dents jaunies par la nicotine.
« Génial ! C'est là qu'habite mon oncle. C'est là que je vais chez mon oncle, à Washington. Génial !»
Le garçon marmonna sa commande à la serveuse et se pencha au-dessus de son assiette pour jouer avec sa fourchette. Comme la majorité des jeunes que je rencontrais ces temps-ci, il m'était impossible de dire si celui-ci était un authentique attardé ou s'il était tout simplement mal élevé. La plupart des personnes âgées de moins de 30 ans appartiennent à l'une de ces deux catégories. Je sirotais mon café et lui demandais.
« Vous vous appelez Vincent, c'est bien ça ?»«
Ouais. » Le garçon se pencha sur sa tasse comme un cheval sur son abreuvoir. Les bruits qu'il émettait allaient dans le sens de cette comparaison.
« C'est un bien joli prénom. Vincent comment ? Hein ? Quel est votre nom de famille, Vincent ?»
Le garçon approcha de nouveau ses lèvres de la tasse pour gagner du temps. Il me lança un regard de fouine.
« Vincent Pierce ?»
Je hochai la tête. Il avait failli dire
« Vincent Price ».
J'avais rencontré Price lors d'une vente aux enchères à Madrid, vers la fin des années 60.
C'était un homme extrêmement poli, raffiné, aux grandes mains douces et mobiles.
Nous avions discuté art, cuisine et culture espagnole. Price avait été chargé d'acheter des œuvres d'art pour le compte de quelques conglomérats américains. Je l'avais trouvé parfaitement délicieux. Ce n'était que plusieurs années plus tard que j'avais appris qu'il avait joué dans quantité de films d'épouvante grotesque. Peut-être lui était-il arrivé de travailler avec Willy.
Et vous faites de l'autostop pour aller chez votre oncle de Washington ?
Ouais.
À l'occasion des vacances de Noël, sans doute. L'école doit être fermée.
Ouais. Dans quelle partie de Washington habite votre oncle ? Vincent se courba de rechef sur sa tasse. Ses cheveux pendaient sur son visage comme un rideau de lianes graisseuses. Toutes les 10 secondes, il levait une main paresseuse pour les chasser de ses yeux. Ce geste était aussi régulier et irritant qu'un tic nerveux. Cela faisait moins d'une heure que je connaissais ce vagabond, et ses manières commençaient déjà à me rendre folle. « Dans la banlieue, peut-être » soufflai-je.
« Ouais. »
« Quelle banlieue, Vincent ? Il y a plusieurs villes autour de Washington. Peut-être traverserons-nous la bonne et je pourrai alors vous déposer ?»
Votre oncle habite-t-il dans une banlieue riche ?
Ouais, mon oncle, il est plein aux as. Toute ma famille est riche, vous comprenez ? Je ne pus m'empêcher de jeter un regard à son blouson crasseux, à présent ouvert sur un t-shirt noir déchiré. Son blue jean taché était reprisé en plusieurs endroits. La tenue vestimentaire ne veut plus dire grand-chose de nos jours, je le sais. Vincent était peut-être le petit-fils de J. Paul Getty. Les chemises de soie que portait mon cher Charles me sont revenues en mémoire. Ainsi que les tenues complexes que Roger Harrison réservait à chaque occasion. La cape et le manteau qu'il enfilait même pour partir en promenade. Ses culottes de cheval, sa cravate noire et son habit de soirée. Dans le domaine de l'habillement, l'Amérique a réussi à imposer son idéal égalitaire. Nous avons réduit les options vestimentaires de tout un peuple au plus petit dénominateur commun de la société. Les haillons. « Chevy Chase ?» dis-je. « Hein ?» fit Vincent en plissant les yeux. « Cette banlieue, c'est peut-être Chevy Chase ?» Il secoua la tête. « Bethesda ? Silver Spring ? Tacoma Park ?» Vincent plissa le front comme s'il réfléchissait à la question. Il allait prendre la parole lorsque je m'exclamais « Oh, je sais ! Si votre oncle est vraiment riche, il habite sans doute à Bel Air, c'est ça ?»« Ouais, c'est ça. » acquiesça Vincent soulagé. « C'est là qu'il habite. » Je hochai la tête. Mon thé et mes toasts arrivèrent. On posa devant Vincent une assiette contenant des œufs, une saucisse, du bacon, des pommes de terre et des gaufres. Nous mangeâmes dans un silence seulement interrompu par le bruit de sa mastication. Passé du rame, l'I-85 obliquait à nouveau vers le nord. Nous entrâmes en Virginie un peu moins d'une heure après avoir pris notre petit déjeuner. Quand j'étais jeune, ma famille allait souvent en Virginie, rendre visite à des amis ou à des parents. En général, nous prenions le train, mais je préférais monter à bord du ferry minuscule, mais confortable, qui partait de Newport News. Et voilà que je me retrouvais au volant d'une Buick immense, mais peu puissante, en train de rouler vers le nord sur une autoroute à quatre voies, tout en écoutant des chants religieux sur la bande FM. Ma vitre légèrement baissée pour chasser l'odeur de sueur et d'urine sèche qui émanait de mon passager endormi. Nous avions dépassé Richmond et le soir tombait lorsque Vincent se réveilla. Je lui demandais s'il voulait bien me relayer au volant pendant quelques heures. J'avais mal aux bras et aux jambes, à force de conduire aussi vite que les autres automobilistes. Personne ne respectait la limitation de vitesse et tout le monde roulait à plus de 80 km/h. De plus, mes yeux commençaient à fatiguer. « Ouais, d'accord, je veux dire, vous êtes sûr ?»« Oui, vous roulerez prudemment, j'espère. »« Ouais, ouais. » Nous nous arrêtâmes dans une aire de repos pour échanger nos places. Vincent se mit à rouler à 100 km/h, tenant le volant d'une seule main, les paupières si lourdes que je craignis un instant qu'il se fût endormi. Je me rassurai en pensant que les automobiles modernes étaient si simples que même un chimpanzé aurait pu les conduire. J'inclinai mon siège en arrière jusqu'à une position presque horizontale et fermai les yeux. « Réveillez-moi quand nous arriverons à Arlington, s'il vous plaît, Vincent. » Il grogna. J'avais posé mon sac à main entre les deux sièges avant et je savais que Vincent le regardait. Il avait été incapable de dissimuler son intérêt lorsque j'en avais sorti une épaisse liasse de billets pour payer le petit déjeuner. Je courais un risque en m'endormant, mais j'étais épuisé. Une radio FM de Washington diffusait un concerto de Bach. Le bourdonnement du moteur et les échos de la circulation me berçaient et je m'endormis en moins d'une minute. L'absence de mouvement me réveilla. Je fus aussitôt consciente, alerte, comme un prédateur s'éveillant à l'approche de sa proie. Nous étions garés sur une aire de repos en cours d'aménagement. La position du soleil dans le ciel hivernal m'indiqua que j'avais dormi environ une heure. La densité de la circulation me suggéra que nous étions tout près de Washington. Le couteau à cran d'arrêt que Vincent tenait dans sa main me suggéra des choses plus sinistres. Il leva les yeux des chèques de voyage qu'il était en train de compter. Je lui rendis son regard sans broncher. « Faut que vous signiez ces trucs » murmura-t-il. Je le regardais sans rien dire. « Faut que vous signiez ces putains de trucs pour que je les encaisse !» siffla mon autostoppeur. Une mèche de cheveux retomba sur ses yeux, il l'écarta d'un geste. « Faut que vous les signiez tout de suite !»« Non. » Les yeux de Vincent s'écarquillèrent de surprise. Un peu de salive apparut sur ses lèvres minces. Je pense qu'il aurait pu me tuer à ce moment-là, en plein jour. À moins de 20 mètres de la chaussée où défilait un flot de voitures.
sans pouvoir jeter mon cadavre ailleurs que dans le Potomac. Mais, et même cet imbécile de Vincent était capable de comprendre ça, et il avait besoin de ma signature sur ses chèques. « Écoute, vieille conne, » dit-il en agrippant le devant de mon tailleur, « tu signes ces putains de chèques ou je raccourcis ton putain de nez. Tu as compris, connasse ?» Il immobilisa la lame de son couteau à quelques centimètres de mon visage. Je contemplais la main crasseuse qui empoignait ma veste et soupirais. Durant quelques brèves secondes, je me rappelais le jour, plus de 30 ans plus tôt, où j'étais entré dans ma chambre d'hôtel, dans un autre pays, dans un autre monde, pour y trouver un gentleman chauve, mais séduisant, vêtu d'un habit de soirée et en train de fouiller dans mon coffret à bijoux. Ce voleur-là m'avait adressé un sourire ironique et s'était incliné devant moi. Comme je regrettais sa grâce, la facilité avec laquelle je l'utilisais, sa tranquille efficacité qui ne devait rien au conditionnement. « Allez !» siffla le jeune voyou qui m'avait empoigné. Il approcha son couteau de ma joue. « Tu l'auras voulu, bordel !» Il y avait dans ses yeux une lueur qui n'avait rien à voir avec la cupidité. « Oui, » dis-je. Son bras s'immobilisa à mi-course. Durant plusieurs secondes, il se contracta jusqu'à faire saillir les veines de son front. Il grimaça, et ses yeux s'écarquillèrent lorsque sa main se rabaissa, se retourna, et dirigea la lame vers son propre visage. « Il est temps de commencer, » dis-je tout doucement. La lame effilée comme un rasoir se dressa à la verticale. Elle se glissa entre ses lèvres minces, entre ses dents jaunies et cassées. Temps d'enseigner, poursuivis-je. La lame entra dans sa bouche, tranchant langue et gencive. Ses lèvres se retroussèrent puis se refermèrent sur l'acier. La lame se couvrit de sang lorsque sa pointe toucha le palais. Temps d'apprendre. Je souris, et la première leçon commença.